France Inter.
Franceinter.com.
On ne fait pas de révolution sans changer le vocabulaire, car la force principale d'un mouvement politique n'est pas la vérité de sa doctrine, mais l'opportunité de sa propagande. Denis de Rougemont, 24 avril 1939. Ans d'histoire. Il n'y a pas de régime totalitaire ou autoritaire sans propagande, surtout lorsqu'en temps de guerre, il lui est nécessaire de mobiliser l'opinion publique pour lui faire supporter les sacrifices et les privations qui lui sont imposés. Le régime de Vichy l'avait bien compris en donnant des moyens considérables au service de l'information et de la propagande, créé en France dès 1939. Mais si à la veille de la guerre, l'objectif de la propagande était de préparer les Français à se battre contre l'Allemagne, après le désastre de 1940, il s'agissait exactement du contraire. Il fallait que par une propagande efficace, l'opinion accepte la défaite, les souffrances qui allaient suivre, le renversement de la République remplacée par un régime autoritaire, et la soi-disant révolution nationale que Pétain annonçait le 30 octobre 1940, juste après avoir rencontré Hitler à Montoire et engagé la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne.
Les exigences du moment ne doivent pas nous faire perdre de vue la grande voie qui s'ouvre devant nous et sur laquelle nous planterons les jalons de la reconstruction française. Dans un message que les journaux publieront demain et qui sera le plan d'action du gouvernement, je vous montrerai ce que doivent être les traits essentiels de notre nouveau régime. Vous y reconnaîtrez les grandes lignes de cette révolution nationale qu'ensemble nous poursuivrons et dont la prochaine constitution déterminera les moyens et les cadres. À cette œuvre de libération et de renouveau, l'esprit public doit être étroitement et profondément associé. Aucun redressement durable ne peut se faire sans son assentiment.
Et l'assentiment de l'esprit public, on dirait aujourd'hui l'opinion publique, eh bien Pétain l'obtiendra grâce à une entreprise de propagande d'autant plus efficace qu'elle n'avait plus personne pour la contredire. Denis Péchanski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de Vichy et de la Résistance et auteur, avec Georges Amat, d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 23h, La propagande sous Vichy. Mais une propagande dont Vichy n'avait pas le monopole, puisqu'elle existait même avant la mise en place du régime, avant même la guerre, à la veille de la guerre.
Oui, si ce n'est qu'on était dans une politique traditionnelle hein, de propagande au service de la défense nationale et d'une préparation de la guerre, sauf en la confiant à Giraudoux, on se doutait bien qu'on n'allait pas bien loin.
Alors cela dit, quand Vichy s'empare de ces instruments déjà créés avant lui, évidemment c'est pour en modifier complètement la nature et la vocation, puisqu'en 1940, à partir de la mise en place du régime de Vichy, il ne s'agit plus du tout d'encourager les Français à lutter contre l'Allemagne, c'est même à faire le contraire qu'on les incite.
Exactement. C'est-à-dire que la propagande n'est plus au service d'une guerre, elle est au service d'un repli, d'une politique à la fois de rassemblement autour des valeurs traditionnelles et d'exclusion de ceux qui sont considérés comme les responsables de la défaite, de la mise en œuvre de ce que Pétain, justement, dans l'extrait que vous avez présenté, appelle la révolution nationale, et qui va de pair avec le choix de la collaboration. Donc on n'est évidemment plus du tout dans une logique de défense nationale, de guerre, et puis ce qu'on dirait à Londres et à Paris, d'une logique de résistance.
Et puis il faut faire admettre aux Français, à l'opinion publique, à l'esprit public, comme disait Pétain, des choses difficiles à admettre. Si beaucoup de Français, et d'ailleurs c'est la raison de la popularité de Pétain, comprennent l'armistice, en revanche ils sont surpris de voir l'ancien vainqueur de Verdun décider de collaborer avec l'Allemagne, et puis il y aura toutes les restrictions, il y aura plus tard le STO, il y aura plus tard la milice, et tout ça est très impopulaire, alors qu'en revanche, Pétain l'est resté assez longtemps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on le voit bien dans votre documentaire, l'homme, la personnalité, vraiment toute la propagande tourne autour de Pétain. C'est Pétain qu'elle met en valeur.
Et oui, parce que Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Donc Pétain, c'est en quelque sorte le représentant de la France maintenue, malgré la défaite, malgré la débâcle. Et donc c'est celui qui sera et qui se présente comme le protecteur des Français dans une situation exceptionnelle, qui est une situation de débâcle, de défaite, d'occupation. Et au bout du compte, il était très utile aux Allemands, puisque ça leur permettait d'avoir une sorte de paravent, voilà, au travers d'une personnalité qui symbolisait toujours cette France, et même cette France vainqueur des Allemands, cette France de Verdun, cette France de 14-18.
Alors que la plupart de ces ministres sont peu populaires, et même, franchement, ne sont pas aimés par l'opinion, je pense bien sûr à Laval, mais il y en aura beaucoup d'autres, et c'est la raison pour laquelle peut-être que Pétain est mis en valeur par rapport à d'autres, par rapport aussi, vous le disiez à l'instant, à tous ceux que vise la propagande, c'est-à-dire tous les responsables aux yeux de Pétain de la défaite de 1940, c'est-à-dire l'ancien régime, ses responsables, les juifs, les communistes, pour lesquels d'ailleurs on organise des expositions. Cette propagande, vous le disiez, c'est une propagande d'exclusion de Lipechanski.
Oui, enfin, c'est une politique d'exclusion. C'est-à-dire que, vraiment, l'exclusion est consubstantielle au régime de Vichy, en quelque sorte. Parce que pour Pétain, d'ailleurs pour l'ensemble des nouveaux gouvernants, et dans une thématique très traditionnelle dans l'extrême droite française, la défaite, la débâcle n'est pas liée à des erreurs militaires, et pour cause, puisque Pétain est au pouvoir. Il y a bien sûr des erreurs politiques de court terme, et on va s'attaquer au dernier responsable politique de la Troisième République, et en particulier à l'époque du Front populaire, mais au-delà, ces gouvernants considèrent que la débâcle est le fruit d'un délitement de la société française qui remonte en fait à la Révolution française. Et que ce délitement est le fait d'un complot. Et le complot, le fait de ce que Pétain va appeler les forces de l'anti-France. Donc c'est l'étranger, le communiste, le franc-maçon, le juif. Et donc pour sortir la France de la crise, il ne sert à rien évidemment de résister, puisque la défaite est un symptôme, elle n'est pas une cause. Il faut rassembler les éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, et là on est au cœur de la propagande de Vichy, et il faut exclure les éléments dits impurs de la société française. Donc on arrête, on interne les juifs, les communistes, les étrangers.
Et en revanche, évidemment, on défend la politique de collaboration avec l'Allemagne dans le cadre d'une Europe allemande contre le bolchevisme qui fait aussi l'objet d'une exposition à laquelle participait en 1942 le responsable de la propagande de Vichy, Paul Marion.
À Paris, M. Paul Marion, ministre de l'Information, et son Excellence M. de Brinon inaugurent l'exposition anti-bolchevique en présence du ministre Schleyer et de nombreuses personnalités. Cette manifestation, à laquelle ont participé la plupart des nations européennes, est destinée à combattre les mensonges qui, selon le mot du maréchal Pétain, nous ont fait tant de mal. Souhaitons voir là une promesse que la France se fera dans l'Europe nouvelle une place digne d'elle.
Le refus de nous intégrer à l'Europe, s'il se prolongeait, aboutirait pour notre peuple au pire désastre, et qu'à la longue, ce refus de marcher avec l'Europe deviendrait tout simplement le refus de vivre et finirait par sentir singulièrement le cercueil.
Quand Marion prend la parole, on peut reconnaître la voix d'Hitler, son maître.
Et c'était la radio de la France libre qui, elle aussi, on vient de l'entendre, avait sa propagande, notamment contre Paul Marion, un personnage important qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été celui qui a été le plus longtemps à la tête de la propagande de Vichy, Denis Pechanski, qui a rassemblé autour de lui, à partir de 1941, des services qui étaient dispersés. Hein. Au début de Vichy, la propagande, on ne sait pas très bien qui s'en occupe, c'est un peu tout le monde.
C'est un peu tout le monde, il y a plusieurs bureaux, il y a de la concurrence. Il y a un personnage clé qui est Ménétrel, qui est le protégé, le filleul, le médecin.
Le médecin personnel de Pétain.
Le médecin de Pétain. Et toute, finalement, une propagande très influencée par les thématiques de l'Action française, très traditionnaliste, qui va accompagner ce que vous évoquiez avec le culte du chef. Vraiment, le culte du chef est central dans cette période-là. Et à partir de 1941, à partir de février 41, là, c'est autre chose. C'est Marion qui arrive dans les bagages de Darlan, le nouveau vice-président du Conseil. Et Marion, c'est un collaborationniste à Vichy. Alors, on fait traditionnellement la différence entre la collaboration, les collaborateurs, ceux qui, au nom de la politique de l'État, prônent la collaboration avec l'Allemagne. Bon, c'est la politique de l'État français. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les collaborationnistes, constitués traditionnellement toujours à Paris, c'est-à-dire des individus qui cherchent en Allemagne un modèle et pas simplement un allié politique. Et oui. Marion, justement, et de la mouvance, et de cette mouvance collaborationniste.
Oui, mais alors, avec des origines absolument extraordinaires, Denis Péchanski. Il vient du Parti communiste, il s'occupait, dans les années 20, de la propagande du PC.
Oui, c'est un grand professionnel de la propagande, c'est-à-dire que dans les années 20, il était responsable à la propagande au Parti communiste français. Dans les années 30, il va rejoindre le Parti populaire français de Doriot, donc à l'extrême droite. Doriot lui-même, ancien responsable communiste, et il va être responsable à la propagande, va écrire un livre sur la propagande en Allemagne, en URSS, en Italie, avec une étude comparée particulièrement intéressante, s'appelle Leur combat en 1939. Et il arrive en 1941, et bien entendu, avec cet individu particulièrement bien formé, les petites mains traditionnalistes du premier semestre de Vichy, évidemment, ne tiennent pas la route.
Marion, qui centralise à peu près toute la propagande, qui avait cette formule extraordinaire, il disait « Un gouvernement révolutionnaire doit se comporter devant la France comme un sculpteur devant la glaise ». Alors la glaise, évidemment, c'est l'opinion publique que l'on va sculpter. Alors avec tous les instruments, évidemment, de la propagande, que ce soit la radio, que ce soit la presse, très étroitement surveillée, vous le rappelez, par la censure, même le cinéma, la chanson. Notamment la presse, il insistait beaucoup sur la presse, Marion, je crois, la presse écrite, dont on parle rarement quand on évoque cette époque.
Oui, alors, déjà, il y a une volonté d'encadrement total de la société. C'est ça qui singularise la période Marion. Et à l'intérieur de cela, il y a en particulier le contrôle de la presse. Et le contrôle de la presse, mais faut voir que tous les jours, les responsables de journaux recevaient des consignes. Mais
les journaux
c'est pas
autorisés. Hein,
et évidemment, qui étaient en petit nombre et très encadrés politiquement, idéologiquement, mais encadrés, mais à un point qu'on ne peut pas encore, on peut pas imaginer aujourd'hui. C'est pas simplement soyez favorable au régime, soutenez le maréchal, parlez de la collaboration le cas échéant ou n'en parlez pas. Non, c'est telle interview du maréchal à la radio doit occuper 5 colonnes à la une de votre journal avec des caractères de telle épaisseur, etc., etc. Enfin, c'est extraordinaire, et y compris avec des articles tout faits qui étaient donnés.
Alors la presse, la radio, la radio qui était très importante aussi, bon, il n'y avait pas de télé évidemment, il y avait également l'édition.
Alors je veux simplement vous arrêter sur la radio, parce qu'on s'imagine que fallait attendre la libération pour connaître une explosion de l'écoute de la radio en France. En fait, il y avait quand même plus de 5 millions de postes radio en France. Et ce n'était pas simplement des écoutes familiales, il y avait aussi les écoutes publiques. Donc, vraiment, la radio a eu un... C'est le média principal, très clairement.
Radio Vichy, ce n'est pas pareil que Radio Paris, qui était sous le contrôle de la propagande allemande.
Exactement. Hein. Et ça sera aussi un enjeu pour la propagande anglaise, britannique, et pour la France libre.
Qui disait Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Alors il y avait aussi tous les instruments, tous les gadgets dont se servent encore aujourd'hui les partis politiques, et même d'ailleurs les clubs de supporters de foot, hein, des affiches, des photos dédicacées, et même des chansons, le tout venant de ces centres d'information et de renseignement que visitait Pétain en novembre 1943.
Les centres sont des magasins. Oui. Installé en particulier dans tous les chefs-lieux de département sont diffusés, le plus possible, tous vos préceptes, tous vos enseignements, toutes vos directives, monsieur le maréchal. Oui. Et en dehors de cette diffusion qui est la doctrine, votre doctrine, nous avons en vente des articles de propagande et qui comportent toujours votre écrit, les cahiers par exemple, les petits agendas de poche, les calendriers aux armes de la Francisque.
J'apprécie beaucoup la photographie de l'école.
Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté.
Mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive ?
Monsieur le Maréchal, la formule que vous avez établie vous-même, c'est-à-dire à la France que j'ai voulu servir toute ma vie.
Nous voilà. Devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas.
Maréchal, nous voilà, on ne peut pas parler évidemment, et vous le faites pareil dans ce documentaire, on ne peut pas parler de la propagande de Vichy sans parler de cette chanson que tout le monde connaît. En revanche, ce que l'on connaît moins, ce que j'ai découvert en regardant votre documentaire, Denis Péchanski, c'est le nom du musicien qui s'appelait Casimir Oberfeld.
Eh bien, je l'ai découvert avec vous, tout simplement, parce qu'effectivement, je n'étais pas au courant de cette histoire. C'est le producteur, l'agent Labib, qui a évoqué cela et qui a souhaité, à juste titre, terminer sur cette référence que je ne connaissais absolument pas. Casimir Oberfeld était juif, bien sûr. Sa musique va être en quelque sorte volée pour cet hymne au maréchal, et lui-même sera déporté, va mourir en déportation.
Auschwitz, en 1945. Alors, cette chanson, on pouvait l'entendre partout, on l'entendait dans les réunions publiques, on l'entendait beaucoup dans les chantiers de jeunesse et dans les écoles, car vous le rappelez, la principale cible de cette propagande de Vichy, peut-être parce que c'était une glaise, pour employer le mot de Marion, plus facile à manier, c'était la jeunesse.
C'est la clé. C'est la clé et c'est ce qui explose vraiment dans tous les documents que nous avons pu consulter. Vraiment, la jeunesse, les enfants sont au cœur du dispositif. C'est la cible dans la mesure où la thématique officielle, l'objectif aussi officiel est de régénérer la société française de l'intérieur, et qui peut mieux la régénérer que ces enfants qui ne sont pas encore, en quelque sorte, tordu par justement l'héritage républicain que les adultes, eux, ont subi.
Alors, il y avait aussi, on l'a entendu dans cette archive étonnante il y a quelques instants, il y avait aussi tous les instruments. Ça fait penser vraiment à un club de foot, à des clubs de supporters, les francisques, les affiches aussi. On voit beaucoup d'affiches dans votre documentaire, Denis Péchanski.
Ah, il y a un fonds exceptionnel là d'affiches.
On ne peut pas les entendre ici, mais on les voit dans ce documentaire.
Au musée d'histoire contemporaine, aux Invalides, qui vendent la BDIC. Et effectivement, parce que c'était un support facile, l'image a été absolument privilégiée dans toute la propagande officielle, et en particulier une déclinaison de l'image du chef, d'abord, celle de Pétain, l'image des références historiques, qui remontait bien au-delà de la Révolution française, bien entendu, et entre autres Jeanne d'Arc, mais pas simplement, aussi Henri IV, par exemple. Donc, toutes ces... Et puis les valeurs qui étaient transmises, je pense, à des affiches superbes qu'on a voulu montrer sur... D'ailleurs, très très belles, du point de vue
efficace,
graphique.
Efficace, cette propagande, vous ne dites pas le contraire. Hein.
Mais sur le couple, par exemple, un couple, je pense à cette affiche, un couple sans enfant, un couple à la dérive.
Il y en a de moins jolies, les affiches antisémites sont assez répugnantes. Alors, tout ça participe d'une propagande destinée, vous le disiez, aux enfants mobilisés partout où Pétain passait pour rendre visite en France, pour y entretenir aussi sa popularité.
Il explique aux enfants que l'effort doit être entrepris en commun et qu'aucun d'eux n'existe que par la famille, la société et la patrie, dont il reçoit avec la vie tous les moyens de vivre.
Et par les routes de campagne, le maréchal s'en va porter aux vendangeurs du Beaujolais, dont la renommée a depuis longtemps débordé la France, son sourire, son regard limpide, ses paroles de réconfort, sa confiance. Alerte comme toujours, il montera dans les vignes pour prendre part un instant à ces vendanges de l'année de la Révolution nationale.
Il se sent chez lui, chez les paysans qui ont l'instinct du travail nécessaire et la passion du sol, et dont il a dit que souvent leur regard paisible et décidé avait soutenu sa confiance aux heures difficiles.
Tant que le soleil sur le monde nous versera l'or pur de ses rayons, on verra jaillir la moisson blonde que le travail donne aux sillons. Nos cœurs palpitent d'espérance, car rien non plus jamais n'arrêtera le destin sublime de la France, où toujours la gloire germera. Au travail, au travail, au travail, au travail. Semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière jailliront les fleurs de liberté.
Semons le grain de la lumière, André Dassary, hein, qui était un chanteur très célèbre à l'époque de l'occupation et de la collaboration, la chanson, les chanteurs qui ont largement contribué aussi à la propagande de Vichy, dont certains ont eu quelques ennuis, pas beaucoup. Je crois que Dassary a continué de chanter très longtemps encore ce type de chanson. Bon, et il y avait aussi de la chanson, il y avait aussi les voyages, on l'a entendu, du maréchal, qui entretenait dans ses voyages sa popularité. Il a beaucoup voyagé en France, en tout cas au début de l'occupation.
En zone sud.
En zone sud.
En zone sud. C'est-à-dire dans la zone non occupée entre 40 et 42. Il a multiplié les voyages.
Il a fait un voyage à Paris en 44.
Et il a fait effectivement un voyage à Paris en 44. Voilà, juste au moment de... Juste avant le débarquement et au moment des grands bombardements dans le Nord. Non, sinon, il a multiplié les voyages tout simplement parce que à partir du moment où le chef est au cœur du dispositif, à la fois pour garantir en quelque sorte le lien entre le régime et la société, pour lui donner un fil rouge, un fil conducteur, pour comprendre à la fois ce qui se passe à l'intérieur, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe avec les Allemands, il est logique qu'il y ait ce contact direct entre le chef et la population. Il va chercher à l'entretenir, le voyage va être mis au service de cette politique, il va être un instrument majeur de mise en valeur du chef qui est la pierre angulaire du dispositif.
Le voyage et également les fêtes, hein, parce que le Vichy, c'est une quantité de nouvelles fêtes, ou de fêtes que l'on restaure, ou de fêtes que l'on maintient. C'est le 1er mai, c'est la Saint-Philippe, hein, célébrée évidemment de manière considérable. C'est la fête de Jeanne d'Arc qui va remplacer, dites-vous, le 14 juillet.
Oui, parce que d'abord tout simplement parce qu'on est en rupture avec l'héritage républicain. Donc, ça n'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est travail, famille, patrie. Ça n'est plus le 14 juillet, ça sera la référence à la fête de Jeanne d'Arc. Bien. Et pourquoi la fête de Jeanne d'Arc ? C'est très intéressant, parce que ce personnage de Jeanne d'Arc va être utilisé aussi bien à Londres qu'à Vichy, dans la résistance que dans la collaboration. Pourquoi ? Parce que Jeanne d'Arc, c'est évidemment le symbole de la résistance à l'ennemi, mais en l'occurrence, l'ennemi, il était anglais.
Alors la fête de Jeanne d'Arc qui sera célébrée jusqu'à la fin du régime de Vichy, lorsque le milicien Philippe Henriot remplaçait Paul Marion à la tête donc de la propagande, lorsqu'il était nommé en janvier 44 par le maréchal Pétain.
Avez-vous, vous qui êtes chargé de la propagande, quelque chose à dire à ce...
Rien à dire. Monsieur le maréchal, après vous, personne n'a rien à dire.
Non, ne faites pas de compliments, s'il vous plaît. En tout cas, quand vous prenez la parole, c'est pour dire quelque chose, et ça compte. Je vous assure que ça compte.
La France tout entière a célébré le souvenir de Jeanne d'Arc.
À Lyon, Monsieur Philippe Henriot, après avoir fleuri la statue de l'héroïne, lance devant 15 000 personnes un vibrant appel à l'unité française.
Mes chers amis, dites-moi si ce n'est pas avec un soulagement profond, avec un enthousiasme qui vous a réconforté, que vous avez vu l'autre jour ce voyage du maréchal dans la capitale française. On avait tellement répété que le maréchal ne voudrait pas, n'oserait pas quitter Vichy, qu'il ne pouvait pas se montrer dans la vraie capitale de la France, que lorsque l'autre jour, le maréchal apparaissant à Paris, On vit une foule d'un million de Parisiens et de Parisiennes qui avaient l'air de jaillir des pavés. On a eu l'impression que cette date marquait en effet le ressaisissement de tout un peuple et la renaissance d'une unité perdue.
Et c'était Philippe Henriot à Lyon parlant donc de la popularité de Pétain. Le 19 mai 44, nous sommes à 3 semaines du débarquement. On est à 1 mois à peine de l'assassinat d'Henriot parce qu'il était tellement efficace comme orateur que la résistance l'a tué effectivement en juin 1944. Mais alors au moment précis où justement malgré le talent d'Henriot, eh bien l'opinion publique, enfin plutôt la propagande de Vichy n'a plus aucune prise sur l'opinion publique depuis un certain temps d'ailleurs, Denis Péchanski. Au fond c'est un échec cette propagande.
C'est un échec relatif. C'est-à-dire que ça n'est pas un échec pour l'image de Pétain, qui va rester très positive jusqu'à la fin, même si elle décroche un petit peu dans les derniers mois. En revanche, que ce soit sa politique, enfin la politique de son gouvernement, puisque évidemment on va faire le distinguo dans l'opinion entre le gouvernement et Pétain, la révolution nationale, enfin toute la collaboration bien entendu, on a une toute autre chronologie. Alors là, il faut aller contre les idées reçues sur l'état de la société française et l'état de l'opinion dans la période. Dès le début, les Français sont très majoritairement contre l'occupation, contre la collaboration, pour la victoire de l'Angleterre. Donc on n'est pas du tout dans cette image d'une France complètement, certes anesthésiée, mais pas prête à accepter n'importe quoi, et en particulier l'occupation. Et c'est bien pourquoi l'image de Pétain est celle du Français qui est maintenue. Il choisit la collaboration, mais en même temps, c'est le vainqueur de Verdun. Et c'est le vainqueur de Verdun que les Français vont garder au fond de leur cœur, malheureusement. Enfin, on y reviendra. En tout cas, dans une première phase, sachant qu'on a ces phénomènes en continuité, à la fois du maréchalisme, le dévouement à la personne du maréchal, et l'opposition à la collaboration.
De plus en plus grand, d'ailleurs, à l'OSCO.
On a des décrochages. Le premier décrochage, c'est printemps-été 1941, pour des raisons toutes simples, économiques. Les Français meurent de faim. Donc ça va être le décrochage. Le deuxième décrochage, c'est 1942-43, avec le STO, le service de travail obligatoire, et puis la persécution, la déportation des Juifs de France qui va provoquer une grave crise dans l'opinion qui ne supporte pas le récit ou le spectacle de ces déportations. Et bien sûr, 44, vous évoquiez Henriot, le moment où la propagande est mise au service d'une lutte sans merci par ce milicien contre la résistance.
Et puis, 44, c'était à ce moment-là, il n'y a plus d'opinion publique en faveur, malgré ce rôle de la propagande que vous rappelez donc dans un documentaire dont vous êtes l'auteur, Denis Péchanski, avec Georges Amat, Maréchal, nous voilà, la propagande de Vichy, un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 2, et dont on a pu entendre d'ailleurs des extraits. Je recommande également la lecture de vos livres, Vichy 1940-1944, Contrôle et exclusion, publié aux éditions Complexe en 1997, et La propagande sous Vichy, 1940-1944, que vous avez dirigé avec Laurent Gervereau, un catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 90 et édité par BDIC. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Rémi Quincé et Julien Chabassu, documentation et archivina Emmanuel Fourier, Clarisse Gardien et Hervé Evano, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus grands penseurs de l'islam, Averroès.